Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à tous, vous écoutez Attitude, votre radio 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 pour Ruffec et Nord-Charente, mais aussi sur www.attitudefm.com et en podcast rubrique sport. Bienvenue dans Culture Sport, votre émission hebdomadaire, chaque lundi 19h-20h30. Nous avons le plaisir, l'honneur et l'amitié de recevoir aujourd'hui Jérôme Di Tommaso. Jérôme, pour cette ouverture de la saison, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir Christian, donc t'es toujours fidèle au poste, on attend peut-être Dédé qui nous rejoindra dans le courant de l'émission, mais bon, on va voir ça. Donc Jérôme, tu es le parrain donc de cette année 2021-2022, on va commencer par prendre de tes nouvelles au plan professionnel pour savoir comment t'es passé au travers de cette saison un petit peu compliquée.
Ah ben, la saison est compliquée, mais écoute, je suis toujours là, c'est ce qui compte. Voilà, le Covid nous a forcé à travailler autrement, différemment. Après qu'on se l'expliquait tout à l'heure, écoute, j'aime toujours mon travail et puis je me plains pas toujours, donc tout va bien.
Qu'est-ce que tu auras appris de cette année-là, là ? Parce qu'on espère qu'on va revenir dans des standards plus acceptables pour le commerce. Qu'est-ce que tu auras appris de cette période-là, Jérôme ?
Alors, ce que j'ai appris quand même, c'est qu'il faut apprendre à travailler autrement et différemment.
S'adapter. Alors,
moi, pour ceux qui me connaissent, tu sais, alors, un exemple tout bête, mon téléphone, c'est un BlackBerry.
Oui,
c'est quelque chose qui date, on n'en voit plus beaucoup.
Bienvenue donc, au club, j'ai le même.
Bon, bien, tu vois. Donc, ça veut dire que je ne suis pas un gars moderne. Et dans toutes ces périodes de Covid, on s'est aperçu que beaucoup de gens qui ne pouvaient plus faire de la restauration avaient besoin des réseaux sociaux pour faire de l'emporter, pour faire du click and collect, pour faire toutes ces choses-là auxquelles je ne suis pas... j'ai pas de site internet ou pas encore, parce que bien sûr maintenant j'essaie de réagir. J'ai pas d'Instagram, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de tout ça. Et on s'est aperçu que tous les restaurateurs ou les gars qui avaient des épiceries un peu comme moi et modernes avaient réussi à s'adapter et à travailler. Donc j'ai appris qu'il fallait que je me mette un peu plus à la page. Donc j'ai réagi un petit peu tard, mais ça va faire.
Avant qu'on revienne au volet sportif, Jérôme, quid de ta passion donc pour le théâtre dont on parle chaque fois qu'on a le plaisir de t'accueillir ?
Eh ben, écoute, donc le théâtre, ben, c'est de l'arrêt aussi. C'est comme tous les, à part les joueurs pro, tous les joueurs ont été en arrêt quand même pendant une petite année. Donc finalement, ça m'a pas plus manqué que quelqu'un qui avait une licence, hein, qu'on n'avait pas le droit de fouler les terrains. Alors après, bien sûr que ça me manque toujours un petit peu d'être au contact des joueurs. Tu sais, je l'ai toujours dit, que tu sois entraîneur, que tu sois joueur, c'est une façon d'exister. C'est une façon de montrer que tu es encore capable de faire des choses, de te démontrer, de te prouver à toi aussi que tu peux faire encore des choses. Voilà, donc c'est un manque pour tous ceux qui n'ont pas joué cette année. Mais le théâtre, c'est pareil. On a été arrêté, on n'a pas eu le droit de jouer, on n'a même pas le droit de s'entraîner ou de prendre des cours. Donc ça a été assez compliqué. C'était un nouveau sport, si on peut appeler ça un sport, que je découvrais. C'était une passion, c'était quelque chose auquel je m'étais vraiment engagé, où j'avais commencé à prendre mes marques. Tout est arrêté, puis j'espère que ça va vite reprendre, parce que c'est un gros manque, c'est une grosse envie qui devient de plus en plus grosse, avec alors pas désespoir, c'est pas ce que je veux dire, avec beaucoup d'envie pour le futur, quoi. Voilà, donc je vais essayer de me préparer à fond dans ma nouvelle passion, et puis on verra jusqu'où je peux aller.
Christian, une question peut-être?
Bah moi, je vais rester sur le volet théâtre. Par rapport à la pièce dont tu nous avais parlé la dernière fois que tu étais venu à l'antenne, Nitom, est-ce que à la reprise, vous allez toujours travailler sur cette pièce ou est-ce que il y aura certainement des nouveaux projets qui vont éclore?
Écoute, alors, j'ai été engagé avec une troupe professionnelle entre guillemets, puisque moi je l'étais pas, où on tournait le Dîner de cons, pièce fantastique, qui a été mise en scène par Julien, qui a la BD Comédie, où il y avait des très bons acteurs, c'était super, j'ai pris du plaisir. Alors, j'avais un tout petit rôle, mais je l'ai déjà expliqué, c'est comme dans le sport, au début, t'es remplaçant, et rien que le simple fait de t'entraîner avec les grands, déjà, tu apprends, et puis tu en tires des leçons, et puis tu progresses, etc., etc. Donc là, normalement, on devrait reprendre, j'espère, bientôt à tourner, on avait une tournée à faire dans toute la France. J'étais content, on allait même jusqu'à Valence, c'était pas loin de chez mes parents, j'avais des perspectives d'autres choses, quoi, tu vois, donc... Là, j'espère que ça devrait bientôt reprendre. Et ensuite, avec ma troupe d'amateurs, on avait commencé à travailler sur des textes pour faire une pièce. C'était Les Bronzés. Alors voilà, forcément, moi j'aime la comédie, j'aime tout ça, donc tout est arrêté, et puis j'espère qu'on va reprendre soit cette pièce, soit une autre, soit quelque chose, quoi.
L'horizon de reprise, t'as une idée, Jérôme, ou pas? C'est encore du 2021 ou c'est plutôt du 2022?
J'ose espérer que c'est octobre. D'accord. J'ai envie de dire par des petits trous de couloir que ça serait octobre. Mais tu sais, au cas où ça ne reprend pas, il faut essayer de rebondir. Tu vois, quand un club ne va pas bien, on change de club. Donc, j'ai forcément pas envie de changer d'endroit où je suis, mais ça fait quand même un an qu'on ne travaille pas. Donc, j'ai essayé de me rattraper de quelqu'un d'autre qui va peut-être lancer une troupe dans le cabaret. C'est quelque chose qui me plairait peut-être. Puis tu sais, moi, je sais pas chanter, je chante très mal. Et je pense que ça peut toujours faire rire quelqu'un qui chante mal. Voilà, et puis c'est le cabaret, c'est du burlesque. Moi qui n'ai pas peur de me déguiser non plus, qui n'ai pas peur de chanter ou d'être un peu ridicule, je pense que ça peut me convenir.
Question, alors, je te l'ai posée tout à l'heure, je sais pas si tu as bien compris, mais est-ce que tu as un projet sportif de reprendre une équipe ou pas?
Alors là, aujourd'hui, non, parce que là, ça y est, tout le monde est engagé.
D'accord.
Tous les clubs ont démarré. Donc, quand tu arrives au mois de septembre, tu n'as plus de projet sportif. Quand tu as un projet sportif, il va démarrer au mois de février, où le club va rentrer en contact avec toi en te demandant si t'as des envies. Après, rien ne m'empêche, une fois de temps en temps, d'aller voir des copains, d'aller traîner un peu, d'aller. Voilà, tout ça. Mais ça, je le fais partout. Je suis engagé nulle part. J'étais pas encore prêt cette année à reprendre le terrain, surtout avec l'année qui vient de passer, qui a été très compliquée. On savait pas encore. Il y a 6 mois où le recrutement a commencé, on savait pas ce qu'on allait donner encore.
C'est vrai.
Quand les clubs, ils commencent à recruter en février, mars ou avril, on est encore en plein Covid, on est encore en début de vaccination. Et moi, je me dis, mais l'année prochaine, on sera où? Moi, professionnellement, je serai où? Donc, je me suis engagé nulle part. Après, la porte, elle est jamais fermée. Tu sais que c'est ma passion.
C'est clair.
Ça fait 50 ans, exactement 50 ans que je suis en milieu du rugby. Et je l'ai dit, c'est aussi, pour moi, une façon d'exister, d'être encore, de tenir, de me croire, de penser que je suis encore à la hauteur. Des tas de choses comme ça, quoi. Donc, pourquoi pas un jour?
Oui, puis c'est vrai que là, on arrive à début septembre, les championnats vont reprendre dans 2-3 semaines.
Les gars, ça fait déjà 2-3 mois qu'ils bossent ensemble. Hein.
Et puis, bah, c'est vrai que là, il vient de se terminer quelque chose d'hyper important dans une saison, bah, c'est la préparation estivale. Donc c'est vrai que pour un entraîneur d'arriver après cette préparation-là, bah, c'est très compliqué, voire c'est arrivé dans de très mauvaises conditions.
Oui, de toute façon, quand t'es joueur, tu peux arriver à l'important, si t'es bon, tu joues, si t'es pas bon, t'es remplaçant ou tu joues à côté, mais c'est pas grave. L'important, il est pas d'être le meilleur dans une équipe, c'est de t'y sentir bien. Après, quand t'es entraîneur, si t'es pas là avant que les joueurs, ils arrivent, déjà, c'est compliqué. Et si t'es pas là quand ils arrivent, t'as plus trop de crédit non plus, ou alors, faut être une pointure, quoi, tu vois. Donc, pour l'instant, je passe mon tour.
D'ailleurs, dis-toi, moi, quelque chose qui m'intéresserait de savoir, c'est comment ça se passe quand tu arrives dans un nouveau club en tant qu'entraîneur de l'équipe Fagnon. Bon, le rugby est un petit microcosme en Charente, il y a pas forcément beaucoup de clubs, donc j'imagine que quand tu arrives à la tête de cette équipe-là, tu connais déjà des joueurs. Est-ce que les premiers entraînements sont importants un peu pour voir les qualités de chacun? Enfin, quelles sont tes priorités quand tu arrives dans une nouvelle équipe?
Alors, d'abord, les joueurs, on les connaît. Si t'es un bon entraîneur, tu connais tes joueurs avant d'arriver. Après, l'important, quand t'arrives et que t'es nouveau, c'est le plus important, avant de regarder l'image que tes joueurs vont avoir, c'est, il faut être bon sur l'image que toi, tu vas donner à tes joueurs. Tu vois, si tu veux avoir du crédit sur toute l'année qui vont arriver, les premiers entraînements, en fait, tu dois faire tes preuves, t'as 2 séances pour faire. Mais c'est comme un joueur. Quand un joueur, il va être devant son entraîneur, sur le début de saison, s'il rate son début de saison, il sait qu'il va pas jouer. S'il se donne pas du crédit devant son entraîneur, il dit putain, il va prendre un autre. Et quand t'es coach, c'est pareil. Si les 2 premières séances t'es tocard, eh ben, tu vois, parce que un groupe, c'est ça. Si t'as pas un vrai leader de jeu ou un vrai coach qui est leader et qui peut amener les joueurs ailleurs là où ils l'attendent pas, si tu rates ça, c'est pas au 3e, 4e ou 5e entraînement que tu vas le faire. C'est d'entrée. Tes 2 premiers entraînements, ils sont pour que toi, tu t'imposes. Pour que toi, tu leur dises, voilà, moi, je travaille comme ça. Je veux ça, je veux vous amener là, faites-moi confiance. L'important, il est là, c'est que tu travailles bien si tes joueurs, ils te font confiance. si d'entrée tu rates ton départ, ils te font pas confiance et ta saison est morte.
Oui, et puis c'est vrai que les premiers entraînements, la préparation d'ailleurs d'avant-saison globalement, c'est un peu le ciment de votre saison, et puis c'est vraiment là que les débuts d'aventure se construisent finalement.
Ouais, mais c'est une aventure et tu dois être bon en tant que coach, c'est-à-dire le contenu de ta séance, ton programme, etc., etc. Et puis sur ton comportement, sur ce que tu vas pouvoir apporter à un joueur en tant que confiance, en tant que toutes ces choses-là, quoi, qui est extra sportif.
Sur tes deux dernières expériences, donc t'as connu la couronne forcément avec qui t'es monté en fédéral 3 et Ruffec qui était plutôt du coup au niveau régional si je me trompe pas. Est-ce qu'on a les mêmes exigences avec des joueurs, même si ça reste quand même des joueurs amateurs dans tous les cas, mais est-ce qu'on a les mêmes exigences quand on coach en fédéral 3 ou au niveau régional, ou est-ce que finalement la charge de travail ou les entraînements tu les adaptes?
Alors, les deux, je veux te dire, au départ, forcément, tu as les mêmes exigences. Après, les résultats sont pas les mêmes. Tu sais, moi, j'ai un souvenir, je m'en rappelle de Jean-Philippe Caria. J'ai eu le bonheur, il m'a amené une fois en Italie. Tu sais qu'il était entraîneur de l'équipe d'Italie. Oui, il m'a invité en Italie à voir comment il travaillait. Tout ça, c'est des vraies expériences, ça, tu vois. Et il me dit, voilà, je fais les mêmes exercices qu'à un moment, j'ai pu proposer à Soyo. Sauf que les joueurs qui les exécutent sont pas les mêmes. Quand tu fais un exercice, quand le gars il court trois fois plus vite ou qui est trois fois plus fort, il est plus facile à exécuter. Mais au départ, on a les mêmes exigences. Sauf que quand on l'adapte pas pareil si t'es un bon joueur ou si t'es un joueur moyen. Après, tu essaies d'avoir les mêmes exigences. Et puis, des fois, tu les revois à la baisse. Et puis, encore à la baisse. Voilà. Tu t'adaptes.
Ouais, et pour terminer sur l'entraînement, vraiment le propre de l'entraîneur, c'est aussi de tirer le maximum de chaque joueur, comme tu le disais précédemment, hein, de l'emmener là où il l'attend pas.
Alors moi j'ai tendance à dire, c'est une phrase parmi d'autres, tu sais, mais c'est facile de faire une phrase. Moi j'ai tendance à dire, un entraîneur doit être entraînant.
C'est vrai.
Ça c'est la base. Alors ce qui est pas forcément toujours le cas, tu sais, les pros, on leur demande pas toujours d'être des bons gars, hein. On leur demande d'être des bons entraîneurs d'abord. Et si en plus c'est des bons mecs, tant mieux. Mais pour moi ma phrase elle est là, un entraîneur doit être entraînant. Il faut, mais il y a pas que ça, il faut qu'il y ait un vrai contenu, il faut que tu sois capable d'accorder la confiance aux joueurs et qu'ils le sentent, qu'ils soient capables de se surpasser pour toi, autrement tu peux rien en tirer. Et puis tu sais que le rugby, on a toujours tendance à penser qu'on est le sport de tous les extrêmes, où on a le plus de valeurs morales, on est le plus guerrier, etc., etc. Donc même si je sais très bien que c'est pas vrai, on va jouer de ça aussi, tu vois, l'avant-match, les vestiaires, les entraînements, on va jouer sur l'affectif pour faire avancer les gars.
L'entraîneur doit être entraînant, tu sais d'où ça vient, d'où vient cette phrase, Jérôme? C'est Daniel Herrero qui l'avait prononcée.
Ah ben toi, comme quoi...
T'as des belles références alors.
Comme quoi on sait faire des meilleurs.
Au fait, qu'est-ce que t'en penses toi de Daniel Herrero, Jérôme?
Mais alors tu vois, je vais te raconter une histoire, moi j'en pense que du bien. Quoi, j'en pensais que du bien, mais alors tu sais, je crois que c'était en 88 ou en 89, à Grenoble, je pars jouer à Toulon, à Mayol. C'était mon premier match à Toulon, chez les grands. Et depuis, mais tu sais, d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait un gars comme Jérôme Gallion. C'est l'exemple. Daniel Herrero qui entraînait, des mecs comme Gallion qui jouaient. Moi, je me rappelle, j'étais gamin, j'avais 18 ans, j'avais le poster de Jérôme Gallion dans ma chambre. Mais après le match, je ne mets plus personne de Toulon, c'est comme ça, parce que d'abord, ils sont plus forts que nous, donc on peut pas les aimer, parce que ils sont plus cons que nous, donc on peut pas les aimer, etc., etc. Donc j'en ai pensé beaucoup, beaucoup de bien, jusqu'au jour où ça se passe mal, quoi, tu vois.
Est-ce que tu penses qu'il avait poussé la notion de combat à son paroxysme, Jérôme?
Bien sûr, il avait tout compris, il se servait des joueurs pour arriver là où il voulait aller. Mais voilà, ça c'était, alors, sans parler du contenu de ses entraînements, c'est un gars qui, par la parole, te faisait monter les mecs là où il voulait les amener. C'était bien. Mais tu sais, à Angoulême, il y a quelques années, on a eu un Maurice Carosi qui était capable de
transcender un groupe.
Et encore une fois, sans parler du contenu des entraînements, toi, sans juger bien, pas bien, tout ça, il était capable de prendre un groupe là et de l'amener là parce que
c'était un véritable meneur d'homme, oui.
Les bonnes phrases, c'est des meneurs d'hommes, voilà, c'est ça. Mais tu sais, dans ma carrière d'entraînement, j'ai essayé de prendre un peu de mon entraîneur de Grenoble quand j'étais gamin, quand j'étais plus grand.
C'était Jean Guénard, c'est ça?
C'était Jean Guénard, ouais, c'était Jean Guénard d'abord, puis j'en ai eu quand j'étais plus jeune. J'ai Maurice, j'ai eu des tas de gens qui m'ont façonné, qui m'ont formé, qui m'ont appris à prendre du bon et du moins bon, mais j'ai pris un peu de bon chez chacun d'eux, j'ai essayé de rejeter ce que je pensais moins bon, mais autant que des joueurs m'ont appris beaucoup, toi, un gars comme Fabrice, même si à l'époque il n'était pas entraîneur, il m'a aidé à évoluer dans mon personnage.
Pour en finir avec Daniel Herrero, il a écrit pas mal de bouquins, je sais plus dans le, je les ai tous lus, mais je sais plus dans lequel il disait que finalement, enfin, le rugby était un sport d'hommes, mais bon, mais de belles découvertes aussi, de rencontres extraordinaires. Je pense, il avait écrit quelque chose de magnifique sur Léon Liopi, sur Jean-François Tordeau aussi. Et donc, c'était vraiment très, très intéressant à lire.
Et ça rejoint à ce que je dis, le rugby, c'est une excuse en réalité. C'est un sport pour qu'on reste en contact, pour qu'on reste ensemble, pour évacuer un peu tout le reste, quoi. Voilà, c'est un jeu d'enfant, même quand t'es grand.
Oui, c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Hein. Il dit on retrouve notre âme d'enfant hein, en jouant ce jeu-là.
C'est une façon d'exister, de t'extérioriser. Tu sais, c'est tout con. Regarde, après le match, souvent on chante. Mais où c'est que dans la vie tu vas aller chanter? Tu vas pas chanter chez toi, sauf ceux qui chantent dans leur salle de bain, toi. Mais c'est des tas de choses. C'est aller boire des coups avec des copains. C'est exister ensemble à plusieurs. Et ça me donne de la force.
Donc, vous êtes avec Jérôme Di Tommaso. Nous lançons la saison 2021-2022. On parle de rugby, mais pas que. Après ce tour de France, je vais dire du rugby, on va revenir à nos terres charentaises. Et quel regard tu poses, Jérôme, sur la saison de SA15 de l'année dernière?
Ah ben, ça a été compliqué, forcément c'est compliqué. Ça l'a été pour tout le monde à cause des mesures sanitaires. Après, quand tu perds 22 matchs à l'année, c'est compliqué de te maintenir. Voilà, c'est comme ça. Ça n'a pas été facile. Pourtant, moi, j'ai vu des matchs, ils ont été vaillants. Il manque pas grand-chose. Il y a manqué un buteur, peut-être à un moment, il y a manqué ça. Mais tu sais, une descente, c'est tellement de petites choses qui te manquent. Bout à bout, ça fait beaucoup quand même. Mais je les ai soutenus toute l'année et je voudrais que... C'est pas parce que... Tu vois, ça m'a embêté que... Ils ont été beaucoup critiqués. Pourtant, les gars, ils ont fait ce qu'ils... À un moment, il faut être joueur pour comprendre que c'est pas facile. Il suffit pas d'entrer sur le terrain et de dire « je vais gagner pour gagner ». En face, t'as 20 mecs qui veulent pas perdre non plus. Donc, ce que je voudrais d'abord, c'est qu'on les soutienne, c'est qu'on soit capable de les applaudir même quand ils perdent, parce que ils ont essayé, ils ont donné. Tu sais, le premier courage du rugbyman, c'est de rentrer sur le terrain.
C'est clair.
Et si c'était si simple, on jouerait tous au rugby. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, il faut arrêter de dire nanana. Voilà. Moi, je les ai soutenus même quand ils ont perdu. Et cette année, je les soutiens encore. Et j'espère que ça va être dur de remonter, mais j'espère qu'ils vont le faire.
Oui, puis c'est vrai que dans le cas du SA15, et au final, depuis la création du SA15, je crois que c'était en 2010, ils n'ont fait que gagner. Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 1, Pro D2. Et c'est vrai qu'au final, c'est un club qui connaissait pratiquement pas la défaite ou pratiquement pas fait de faire une saison compliquée.
Non, mais c'est pas simple. Voilà, mais ils ont quand même refédéré une ville entière, quand même. C'est pas. Et Chanzy, c'est plein. Ils ont fédéré une ville. C'est super ce qu'ils font depuis des années.
Bon,
Après, tu peux pas toujours gagner. Ça serait simple. Hein. Voilà. Regarde, il y a tellement de clubs qui chutent alors qu'on les attend pas. Voilà, c'est comme ça.
De toute façon, rien que pour voir ce qu'a accompli le SA15 depuis sa création, il y a juste à voir le changement, l'évolution du stade Chanzy en lui-même.
Ouais, il faut tout regarder ça ensemble. Enfin voilà, il faut les soutenir et il faut les pousser pour qu'ils essayent de remonter. Même si, comme je dis, ça n'a pas de simple.
Non, parce qu'il y a quand même pas mal de candidats, ne serait-ce que Valence Roman de l'année dernière, on pense à Narbonne, on pense à
Nice, il y a des tas de
Nice, Rouen.
C'est un championnat qui est très dur. Il y a beaucoup d'anciens très bons clubs. Voilà. Après, j'ose espérer que le recrutement s'est bien passé quand même. Moi, j'ai confiance. Je crois qu'ils vont s'en sortir.
Eh ben, écoute, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, Jérôme.
Même s'ils ont, alors, je veux pas dire qu'ils ont mal démarré. C'est pas ce que je veux dire. Ils ont pris un point de bonus. On verra s'il y en a beaucoup qui le prennent. Après, malgré tout, ils sont pas vénards sur le match. Toi, on peut leur accorder que c'est le point match, qu'ils perdent un point quand même à l'extérieur. Bon, et c'est jamais simple. Hein.
Qui est épuisé à Tarbes, oui, c'est vrai. C'est pas.
Oui, c'est à Tarbes. Bon, ouais.
Est-ce que tu penses, Tony Tom, que quand on change de division, il y a forcément un temps d'acclimatation, pardon. Je me rappelle à l'époque de la Couronne, tu me disais, Et nous, on est promu en Fédéral 3. Ce qu'il faut, c'est se mettre au niveau le plus rapidement possible. Est-ce que tu penses qu'à l'inverse, le SA15 qui descend de Pro D2 doit justement prendre un peu la température du championnat avant vraiment de savoir ce qu'il peut viser cette année?
Tu sais, quand tu montes, c'est compliqué de se mettre au niveau. Oui. Normalement, quand tu descends, c'est un peu plus simple de se mettre au niveau puisque tu es censé déjà être au niveau, même un petit peu au-dessus. Après, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe, il y a eu beaucoup de remaniements, il y a eu beaucoup de choses qui font que tu peux pas être prêt tout de suite. Mais j'ose espérer que de descendre, c'est beaucoup moins compliqué que de monter. Je pense que c'est à la longue qu'on va les juger. Il faut attendre les 4-5 premiers matchs, il faut les voir avec un vrai adversaire, il faut aller voir aussi le derby qui va être quand même si sur le papier, Cognac est plus faible. Il faut voir le derby, comment ils vont réagir à cette embuscade, à toutes ces choses-là, quoi.
Ouais, d'autant que l'UCS a fait un bon résultat en allant prendre quand même un point de bonus défensif. Donc, c'est pas neutre non plus, hein.
Ils ont quand même perdu à domicile.
Ouais, mais en face, c'était Cognac, tu dis que c'est pas un bon résultat parce que ce qu'ils voulaient, c'était gagner quand tu démarres une saison. Et puis après, ils doivent recevoir Blagnac. Après... Bon, alors, pour eux, ça va être très compliqué. Mais bon, je connais aussi, je sais qu'ils vont travailler pour résister.
Ouais. D'ailleurs, dit Tom, par rapport au SA15, alors j'ai dit quelque chose lundi dans l'émission du SA15 que l'on fait sur Attitude. J'avais dit notamment que de jouer un premier match à l'extérieur, c'était bien finalement pour le SA15, ça enlevait un peu la pression finalement de débuter à Chanzy. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas?
Alors moi, je suis d'accord. Si tu gagnes, je dis comme toi. Si tu gagnes à l'extérieur, je dis que c'est bien de commencer à l'extérieur. Voilà. Moi, je suis pragmatique. Hein. Si tu perds, je dis non, finalement, c'était pas bien. Parce que tu aurais commencé à la maison, tu aurais gagné, tu te mets en confiance. Tu sais, moi, je dis toujours, le classement fait le mental. C'est comme ça. Parce que imagine, c'est le calendrier fait que sur les trois premiers des matchs, tu en as deux à l'extérieur. Et tu en gagnes qu'un, forcément, celui qui est à la maison. Bah, déjà, tu es milieu de tableau. Le prochain gars qui vient jouer chez toi, il te dit, bon, on joue un milieu de tableau. Il vient plus serein que s'il joue un premier de tableau. Le classement ferait vraiment le mental pour toi et puis pour tes adversaires. Donc, moi, je dis, si tu gagnes à l'extérieur, ouais, c'est bien. Mais autrement, si tu reçois, tu gagnes, tu démarres le championnat, vous êtes en premier. Et ça change beaucoup de choses.
C'est bien pour un département comme la Charente d'avoir deux équipes à ce niveau-là, Jérôme, non?
Ouais, on a deux équipes à ce niveau-là. Et puis après, t'as Barbezieux. T'as Barbezieux qui essaye de pousser derrière, qu'on fait un gros recrutement. D'accord. Et qui vont essayer d'aller encore un peu plus haut, tu vois. Bon, ouais, ils ont fait une bonne préparation, et puis ça va pas être compliqué, mais ils ont fait un bon recrutement.
Barbezieux, d'ailleurs, dis-toi en deux mots, on sait que tu es très proche de Vincent Andouin. Est-ce qu'il t'a fait des petites confidences sur ce que l'équipe pouvait viser cette année? Est-ce que la Fédéral 1, c'est jouable?
Écoute, c'est pas des confidences qu'on se fait, on se parle comme des amis, donc c'est pas des confidences, mais on se raconte nos quoi. Vincent, il me raconte ses espoirs, ses envies, c'est tout ça, on en discute beaucoup, puisqu'on se voit de temps en temps quand même. Bien sûr, de toute façon, Vincent, c'est un rêveur, il a toujours plein de projets, plein d'envies, plein de, mais très réaliste en même temps. Donc, ils ont une belle équipe et, tu sais, les dernières, avant que le championnat s'arrête, ils avaient fait un très bon début de championnat.
C'est juste.
Mmh. Et là, pourquoi pas viser au moins les qualifs, tu sais, ça serait déjà. Et puis après, tu sais, plus c'est infinité.
Hein. Oui. En tout cas, que tu m'as parcouru hein, pour Barbezieux, parce qu'ils étaient quand même en Fédéral 3. D'ailleurs, il y avait eu le derby.
Bien avant la Fédéral 3, ils étaient en promotion d'honneur.
Oui, complètement. C'est vrai que c'est un club qui faisait un peu l'ascenseur Fédéral 3 honneur et puis qui s'est stabilisé après en Fédéral 3. Au final, c'est une trajectoire linéaire pour
Barbezieux. En plus, c'est un club qui s'est structuré aussi sur les infrastructures, sur les jeunes, sur tous les encadrants, sur le stade. Et ils ont, je sais pas si tu sais, ils sont en train de refaire leur stade, ils vont avoir un terrain d'entraînement. C'est vraiment en train de se structurer comme un grand, grand club, mais comme un club intermédiaire.
Qui est-ce qui coach, Jérôme, cette année?
Cette année, ça va être Guillaume Ajac.
D'accord.
Très bien, Guillaume, c'est un bon gars, c'est un gars super. D'accord. Qui va entraîner avec, j'ai son nom au bout de la langue, ça va me revenir, et qui va entraîner l'équipe réserve avec eux, c'est Sébastien Lassienne, que je connais bien parce que j'étais avec lui.
Ah oui, exact.
Et avec Bisserier, qui est un ancien, j'allais dire un ancien du SA15. Non, oui. Parce qu'au départ, il est Chabanais.
C'est un pilier, je crois, Bisserier, non?
c'est Chabanais. Il a commencé à Chabanais, il est parti à Soyo et il a fini à Angoulême.
Pilier, il me semble, dit Tom, au niveau de son,
ouais,
niveau de son
mais... poste. Il pouvait tout jouer, il pouvait être pilier, il pouvait être troisième ligne, il était bon partout.
Il me semble d'ailleurs qu'il ben il a intégré donc le SA15, il est à Soyou, il a intégré le SA15 quand, ben quand les deux clubs Soyou et Angoulême ont fusionné.
Exactement.
Ouais, il doit faire la montée du coup de Fédéral 3 en Fédéral 2.
Ouais.
Et puis par rapport à ton ancien adjoint du coq, il a été à bonne école du coup, Sébastien.
Oui, ben, et puis c'est un gars qui est... C'est un gars bien. Mais ils vont bien s'entendre, c'est tout bien. Bon. Ils ont une bonne équipe, c'est tout très bien.
On essaiera de les faire venir dans notre émission. Je suis sûr qu'ils auront des choses intéressantes à nous dire. Nous sommes toujours en liaison avec Jérôme Di Tommaso, sur lequel nous évoquons ensemble les moments forts du top 14 et de la Pro D2. Jérôme, on va passer du départemental au national. Donc, avant de parler de l'équipe de France, ce sera tout à l'heure dans une question à venir. Quel regard tu portes sur la saison de top 14 de l'année dernière?
Eh ben moi j'ai bien aimé, même si il n'y avait pas de monde dans les stades. Heureusement on a des télés aujourd'hui.
Oui.
Moi j'ai bien aimé Toulouse, j'ai bien aimé La Rochelle, j'ai bien aimé tous ces matchs de haut niveau, quoi. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est dommage sur La Rochelle, ils auraient pu au moins gagner une finale sur deux.
Oui, et ça c'est clair.
Quand tu vois la dernière finale du championnat de France, bon.
Oui, ils passent à côté du match, quoi. C'est un peu dommage.
Ah mais je suis pas d'accord, Didier, parce que souvent d'accord. Quand tu passes à côté du match, c'est que les autres sont forts. Tu vois ce que je veux dire, parce que les joueurs, ouais. par exemple en attaque, ils ont fait plein d'en avant, ils ont fait. Écoute, ce jour-là, La Rochelle a tellement bien défendu qu'à un moment, ils ne pouvaient pas mettre leur jeu en place. Tu vois ce que je veux dire? Moi, le jour où je joue contre une petite équipe, je vais être fort. Parce qu'en face, ça ne défend pas pareil, ça monte moins vite, ça me fait moins peur, si tu veux. Mais le jour où tu joues contre des kings en face, tu es fébrile. Si tu veux. La ligne d'affrontement, quand tu veux quelqu'un qui n'est pas bon, t'as peut-être deux secondes. J'exagère tout. T'as peut-être deux secondes pour prendre une décision de ton bon ou ton mauvais choix. Mais quand tu vas jouer contre les Blacks, t'as moins d'une seconde pour réagir.
C'est
parce
clair.
Qu'ils sont tout de suite sur toi, parce qu'ils te pressent. Et voilà, mais ce jour-là, Toulouse a tellement été plus fort qu'ils n'ont pas pu mettre leur jeu en place. C'est vrai qu'ils n'ont pas été bons, mais ils n'ont pas été bons parce que les autres étaient trop forts ce jour-là.
Ouais, je reprends les propos de Grégory Aldrit, qui disait, donc, et je m'en souviens très très bien, lorsqu'il a été interviewé à l'issue de la finale du championnat de France, il a dit « je ne comprends pas ». On n'a rien pu mettre en place de ce qu'on avait dit. Donc c'est peut-être, non. Ça rejoint peut-être ce que tu dis toi, c'est parce que justement Toulouse avait placé le curseur un poil plus haut et que ça n'a pas suffi.
Ouais, ils ont défendu comme ils ont été oppressants, ils ont oppressé. Ils ont pas pu voilà, mais après il y a une part de réussite aussi, toujours un petit peu, mais bon, ce jour-là, ils auraient pu jouer dans le plus, ça aurait rien changé.
Peut-être le plus grand regret qu'ils peuvent avoir, c'est sur la finale de la Coupe d'Europe, non? Qu'en penses-tu?
Ah, mais le regret, il est parce qu'ils prennent un carton rouge, et voilà. Forcément, comme ce week-end qui vient de passer. Oui. Forcément, si tu ne prends pas un carton, tu te dis, surtout qu'ils dominaient à cette période-là du match, tu vois. Donc, ils étaient bons devant, ils étaient bons partout, ils prennent un carton, ça a chamboulé un peu le match. Voilà. Mais après, à un moment, une bonne équipe, c'est l'équipe qui est capable de ne pas prendre de carton. Voilà. C'est comme ça. Mais ça leur a pas servi de son. Regarde, encore dimanche, ils en prennent un.
Quand on fait deux finales dans la saison, est-ce qu'on fait une bonne saison finale? Parce qu'on fait deux finales, on perd deux finales, on fait une bonne saison.
C'est la meilleure saison de toute leur histoire et de toute l'histoire de but. Il y a des tas de clubs qui auraient signé tous les jours pour tu te rends compte de finale. Ils en avaient même pas fait une déjà dans leur vie. Non, mais c'est fantastique. Et puis, c'est fantastique parce que si tu les prends il y a 5 ans, il n'y a pas un gars, et moi le premier, qui aurait parié un euro sur eux, quoi.
Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, si, alors là, c'est la question un peu piège, peut-être. Si jamais des deux finales, il y en avait qu'une que La Rochelle aurait pu gagner, laquelle t'aurais préféré, dit Tom?
Ah, moi, j'estime toujours que le championnat de France est plus beau que la Coupe d'Europe, mais en vrai, peut-être que celui qui gagne la Coupe d'Europe, c'est le champion d'Europe, c'est pas le champion de France. Non, parce que le bouclier de Brennus, il a plus de signification pour nous, les rugbymen. Et que la Coupe d'Europe, elle est en place depuis 20 ans, peut-être, je sais pas plus, grosso modo, quoi.
Ouais. 20 ans.
Et c'est puis ça. Le Brennus, c'est
ouais, c'est une symbolique.
Ouais, voilà, exactement.
Ouais, et puis c'est vrai que ça récompense quand même le travail de toute une saison, voire même peut-être même des saisons précédentes au final.
Ouais, et puis le top 14, c'est t'as quoi, 26 matchs, le CFA final, t'as pratiquement 30 matchs dans l'année. En Coupe d'Europe, t'en fais quoi des matchs? T'en fais quoi? T'en fais 5, 10? Ouais, t'en fais 3 fois moins quand même des matchs. Donc tu vois, c'est un championnat à 30 matchs et un championnat à 10 matchs. Donc le top 14, pour moi, il est plus représentatif.
Je pensais à toi, Jérôme, quand j'ai regardé le match entre Bayonne et Biarritz pour l'accession, parce que là, vraiment, ça a été un match extraordinaire dans tous les sens du terme, à savoir un score final de 6-6 et des tirs au but. Est-ce que là, ça rentre dans une autre dimension?
Mais tu sais, il est extraordinaire, surtout pour les Biarros.
Oui.
Parce que pour les Bayonnais, c'est un match pas extraordinaire, mais magnifique. Mais tu sais, à un moment, moi, j'analyse, alors, sans être pour une équipe ou pour l'autre, je pense que Bayonne a mieux joué pendant tout le match. Sauf qu'à un moment, je vois surtout sur la fin du match, ils ont 3 points à prendre. Ils ne les prennent pas. Ils ne les prennent pas, ils vont trouver la touche pour essayer de marquer un essai.
Et le Bécher.
Mais bien sûr, à un moment, c'est des, comme on dit, des excès d'orgueil, ou je ne sais pas comment tu appelles ça.
Si, c'est ça.
À un moment, il faut être capable, il faut être lucide. Tu sais, le rugby, il ne suffit pas simplement d'être... Moi, je disais souvent à mes joueurs, la meilleure qualité d'un rugbyman, c'est d'être intelligent. Mais à un moment, moi, j'estime qu'il... Alors, je suis pas assez prétentieux pour être meilleur qu'eux, ou pour dire ce qu'ils auraient dû faire ce jour-là. Mais moi, je pense que ils auraient quand même mieux de prendre des points, ils n'en seraient pas là aujourd'hui.
Ouais, puis je me souviens d'une action où ils ont deux trois mauls de portée de balle à 5 mètres de la
ligne de Biarritz. Ils étaient sûrs d'aller marquer. Voilà. Ils étaient sûrs d'aller marquer, ils auraient mieux fait de prendre 3 points.
Et qu'il y avait
il n'y aurait pas eu de prolongation, il n'y aurait pas eu de tir au but. Et, ouais. Le rugby, c'est simple. Regarde comment jouent les Blacks. C'est tout. C'est les meilleurs du monde.
Ils sont pragmatiques.
Pas la vie. Il y a 3 points à prendre, ils prennent 3 points. Surtout quand tu es à 3-3 ou à 6-6, je ne sais plus, qui reste 10 minutes, et ben tu passes à 9. Surtout qu'elle était sur les 30 mètres, tu passes à 9-6, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Après, c'était un bon match, c'était super. Moi, je pense que sur le match, Bayonne a été plus fort. Mais en face, on a eu des mecs qui ont défendu comme les chiens, qui l'ont pas volé, quoi, tu vois. Ils l'ont pas volé, ils avaient envie, ce jour-là, ils ont tout donné pour. Et puis, c'est au mérite, à un moment.
Et en plus, dans leur trajectoire, il y avait comme quelque chose qui était écrit d'avance lorsqu'ils sortent Van avec un essai à la toute dernière minute.
Ouais, exactement. Mais voilà, ils sont allés se chercher. Ça a été une équipe courageuse. Pourtant, moi, tu sais, je les avais vus jouer en début d'année quand Angoulême était allé là-bas. Angoulême avait perdu, mais je ne les avais pas trouvés terribles. Je disais, putain, c'est une petite équipe de Biarritz, tout ça. Quand tu vois qu'ils sautent, qu'ils remontent, tu te dis, bon, il y a des choses qui se sont passées en comptant. Ils ont progressé, ils ont évolué, ils ont. Voilà, mais voilà.
Et Tom fait référence à ce Biarritz Angoulême où Angoulême perd de peu. Là, je suis en train de rechercher le score sur mon téléphone. Mais c'est vrai qu'après, par contre, ils avaient quand même fait un match retour à Chanzy qui était quand même de très très forte qualité, de très bonne qualité. Hein.
Oui, mais parce qu'après Angoulême est plus dans le coup non plus.
Oui, aussi,
j'ai dit tout à l'heure, le score fait le mental. Quand Angoulême, ils sont pratiquement derrière, tu joues pas pareil que quand t'es en début d'année, que t'as encore l'espoir de te qualifier. Voilà, c'est le classement fait le mental et pendant le match, le score fait le mental.
Bien sûr. Ouais, surtout qu'Angoulême, en plus, avait pris un carton jaune alors qu'il faisait un super match à Biarritz. Donc, bah, ça a encore un peu cassé tout ce qu'il y avait comme mental.
Mais je me rappelle au retour, c'est dans les tribunes que ça s'était pas bien passé contre Biarritz.
Ah bon?
Oui. Avec le président, notamment.
On a fait le tour, donc on a vu le top 4, on a vu la Pro D2, on a vu le top 14. Donc on va parler maintenant de l'équipe de France. Jérôme, la tournée en Australie, pour toi, qu'est-ce que tu en retiens? Ça a été quelque chose de, enfin, j'ai trouvé vraiment enthousiasmant quand même, en dépit des deux défaites.
Alors, sans vouloir faire offense à tous les jeunes qui sont partis, on avait l'impression au départ que c'était l'équipe bis.
Oui.
Avec tous ces jeunes, et après, ils ont eu que des bons résultats. Moi, je me suis dit, quelque part, ouais, qu'est-ce que ça vaut, l'Australie? Tu vois, c'est la question, c'est ce qu'il faut, c'est ça. Mm-hmm. Et après, j'ai vu les Australiens faire leur premier match contre les Blacks, où ils ont été pas trop mal, quand même. Je crois même qu'ils ont un très bon, je pense, Christian qui sait tout, il doit me dire. Le premier match de Nouvelle-Zélande et Australie, ça a donné quoi?
Bon, c'était soit en tout cas, je peux te dire que
c'était soit très serré, soit les Australiens ont gagné.
Que Biarritz a gagné 15-6 à Biarritz contre le SA 15 et qu'au retour, Biarritz l'a emporté 31-15.
Voilà,
j'ai
retrouvé. Voilà. Donc, tu vois, je me suis dit, ben, finalement, ces Australiens, ils sont pas si mauvais que ça. Donc, ça veut dire, ça donne du crédit à tous ces gamins qui étaient là, voilà. Après, le plus dur, c'est pour Fabien, comment il va faire son équipe. C'est compliqué. Mais bon, vaut mieux en avoir trop que pas assez.
Ouais, là aussi. Donc, quels sont les joueurs que t'as qui t'ont fait la plus forte impression et sur lesquels t'as...
Ah, moi, je suis pas objectif. Alors, le petit Gérassi, pourtant, est blessé. Je suis très copain avec son père. J'ai joué avec lui à Grenoble. Donc, pour moi,
c'est fils de son papa, oui.
Oui, voilà.
Donc, et qui joue avec Chafardon, etc.
Voilà, je vais te dire, c'est le petit Kylian parce que parce que c'est un bon gamin et que je le connais, c'est tout. Après, ils ont tous été bons. C'est des gamins qui avaient envie, qui avaient du cœur. Et c'est ça le plus important. Tu sais, à un moment, même s'ils perdent, ce qu'on veut voir, c'est des mecs qui ont envie, c'est des mecs qui se battent et qui lâchent rien. Et voilà.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Tu me croiras si tu veux, Jérôme, mais donc sur l'ensemble des trois matchs, eh ben, au final, il y a 3 points d'écart entre l'équipe de France et l'équipe d'Australie.
Ouais, mais ça a été une super tournée. Après, il faut voir celle qui arrive, tu vois, qui va être compliquée. Bon, il y aura 2 matchs compliqués. Tu joues quand même la Nouvelle-Zélande, c'est au mois de novembre, je crois. Oui. Tu joues quand même la Nouvelle-Zélande, qui est quand même la Nouvelle-Zélande.
Il y aura l'Argentine
qui ont toujours envie de venir nous faire chier ici en France. Après, tu joues la Géorgie, qui sur le papier est un peu moins bon, quoi.
Mais l'Argentine,
c'est un match de bon niveau, quoi.
L'Argentine, c'est quand même un exemple à suivre, hein, parce qu'il y a quelques années de ça, et encore il n'y a pas si longtemps, c'était une équipe qui, hormis la mêlée, n'avait pas de savoir-faire. Et là, depuis quelques années, il y a eu un travail remarquable qui a été fait au sein de cette nation.
Ouais, mais ils sont pratiquement au niveau. J'ose espérer que la France est encore meilleure. Aujourd'hui, on sera au-dessus, mais après quand tu vas jouer les Blacks, c'est compliqué, sachant que dans deux ans, tu les rejoues pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Hein.
Ouais, donc là, c'est événementiel, ça c'est le match que tout le monde attend, non?
Ouais, tout le monde attend. Mais déjà, celui-là, je l'attends. Tu sais, de toute façon, quand tu as un match avec les Blacks, tout le monde l'attend. C'est comme ça, c'est les Blacks, c'est l'équipe. Alors, quand tu es en France, tu veux voir jouer les Français. Autrement, tu veux voir jouer les Blacks, c'est les Blacks. Tu sais, même si je suis le plus grand fan des Italiens en rugby, j'aime encore, je préfère encore voir jouer les Blacks, c'est comme ça. J'avais encore parié sur l'Italie, là, le dernier France-Italie. Hein. Mais bon, ils ont pris 50 points.
Ouais, ça a été compliqué pour l'Italie. D'ailleurs, les Blacks, Jérôme, est-ce que tu penses que tout sport collectif confondu, est-ce que tu penses que c'est l'équipe qui a écrit finalement le plus gros mythe? Bon, on peut peut-être comparer avec le Brésil au foot, mais est-ce que tu penses que
les Blacks sont le Brésil au foot, ça a quand même si aujourd'hui, c'est plus que ça a été. Hein. Alors, tu vois, la différence, c'est que les Blacks, ils continuent à être ce qu'ils ont été. Mais peut-être que dans quelques années, tu pourras parler des handballeurs en France. Toi, parce que quand même, ils ont un palmarès sur ces dernières années. Après, la vraie différence, c'est que les Blacks, ils ont écrit leur histoire, c'est une légende, mais aujourd'hui, ils le sont toujours. Tu prends les Brésiliens, c'est une légende. Tu parles au passé, quoi, quand tu parles des Brésiliens.
Oui.
Voilà.
C'est juste. Alors qu'avec les Blacks, tu parles au présent, quand même. Parce qu'ils sont toujours dans la continuité. Hein.
Les Blacks, c'est comme ça.
Bah les Blacks, au final, tu parles un peu à tous les temps parce que ils gagnent la première Coupe du Monde en 87, ils gagnent les deux dernières, je crois. Donc la prochaine, ce sera encore les favoris. Donc on peut parler au passé, au présent et au futur avec eux.
Alors favoris, je sais pas, c'est quand même une Coupe du Monde qui a lieu en France.
Oui.
J'ose espérer qu'on sera un peu meilleur que la dernière.
Oui.
Voilà, tu sais pas.
On s'était fait sortir. On s'était fait battre par l'Argentine d'entrée, non? C'est ça.
Ouais, puis je crois qu'on a perdu contre l'Irlande en quart de finale avec un carton écopé encore en fin de match. Et quand tu vois que, des fois ça joue pas grand chose. Sauf pour les Blacks parce qu'ils sont quand même toujours meilleurs.
Tout le monde essaye de trouver des moyens pour pouvoir les contrer et franchement, personne n'a encore vraiment trouvé la solution.
Mais tu sais, j'ai entendu Fabien qui disait il y a quelques temps, il faut arrêter d'essayer de copier les autres. Il faut déjà qu'on arrive à jouer comme on sait jouer. Et il dit, parce que, et il l'a dit, le rugby français, tout le monde nous a envie aussi sur cette dernière phase. Donc, je pense qu'ils vont commencer à vouloir jouer comme on sait jouer et qu'on essaiera de copier les autres plus tard. Mais après, c'est vrai qu'ils sont fantastiques, mais ils ont quand même des défauts, ils sont traversés quand même tout le temps. Il faut trouver leur point faible, c'est tout.
Et ils se sont fait battre par l'Argentine, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'était l'année dernière, non?
Oui, c'est ça. Mais je cherche à voir qui perd, je suis triste.
Ah, c'est une équipe qu'on n'arrive pas à détester au final.
Ah, ils sont superbes.
Ouais. D'ailleurs, en parlant de Fabien Galthié, il était à Cognac. C'est quand même un événement pour le département de recevoir le sélectionneur national.
Bah, pour le département et puis pour le club de Cognac, je pense que. Toi, j'étais avec Fabrice aujourd'hui. Il était. Fabrice, il était enthousiaste, mais les joueurs surtout. C'est l'entraîneur de l'équipe de France qui vient dans un petit club faire une séance d'entraînement. Voilà. C'est de la simplicité à l'état pur.
T'as eu Christophe au bout du fil ou tu l'as vu
Non, j'ai pas eu Christophe. Et comme il a perdu dimanche, j'ai pas osé l'appeler cette semaine.
D'accord.
Mais j'étais avec Fabrice Abidi, donc on en a parlé.
Tu entretiens toujours avec Christophe des liens d'amitié très forts, non?
Ouais, toujours.
Vous parlez souvent, ça vous arrive?
Quand il perd, je l'appelle jamais, déjà. D'ailleurs, ça sert à rien, mais bon.
Vous écoutez Culture Sport, donc nous avons comme invité ce soir Jérôme Di Tommaso, qui lance avec nous l'année 2021-2022.
Je voudrais revenir forcément sur sur la venue de Fabien Galthié à Cognac. C'est quand même l'événement. Bon, bien sûr, le championnat national a repris, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu toute la saison. Mais la venue de Fabien Galthié, c'est quand même l'événement. Je crois qu'il a fait donc un retour vidéo avec les joueurs de Cognac et peut-être aussi une séance terrain. Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à l'UCS, dit-on, tu penses, sa venue? C'est plus un peu en mode... ça peut apporter des choses morales d'avoir vu Galthié ou...
Non, mais alors déjà, tu sais... Regarde, quand par exemple, je prends un exemple tout bête, quand ton père, qui te gronde, te dit 10 fois, fais pas ça. Pourtant, c'est ton père, c'est le gars que tu dois écouter tout le temps. Il suffit que ce soit pas lui, que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive et qui te dit fais pas ça. Eh ben, tu vas l'écouter plus que ton père. Toi, alors si en plus, ce gars qui vient et qui te dit c'est nul ce que vous avez fait et que c'est Fabien Galthié, tu l'écoutes forcément plus que ton coach actuel, même si c'est un très grand coach. Toi, d'abord, il y a une lassitude du coach qui est répétitif et qui est aussi dans l'affectif. Alors qu'à Fabien, il arrive, il a une autorité, il a un charisme, il a le tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr.
Il peut dire la même chose, mais lui, tu vas l'écouter parce que d'habitude, il te le dit pas. Toi, je dis, ton père, 50 fois, il va te dire, c'est pas bien, tu vas pas l'écouter. Mais quand une grande personne va te dire, fais pas ça, tu vas dire putain merde, faut pas que je le fasse.
C'est la théorie de l'empreinte, donc c'est là où quand une personne qui est extérieure à ton cercle de famille est beaucoup Exactement. Plus sensible à ce qu'il peut Exactement. Te dire en positif, en négatif d'ailleurs.
Mais tu vois, après ce qui est intéressant, c'est que je pense que Fabrice et Fabien parlent aussi le même langage. Et c'est important aussi que ça redonne du crédit à Fabrice, qu'on n'a pas besoin de reprendre du crédit, parce que voilà, tu sais ce que j'en pense, que les joueurs, ils voient qu'ils parlent le même langage, que voilà, ils sont tous les deux grands professionnels du rugby, et ça, c'est très bien.
C'est vrai que d'ailleurs, le rugby est un peu... Enfin, les staffs de rugby aiment bien incorporer par intermittence, parfois, des gens qui viennent de l'extérieur. J'ai encore en mémoire... le SA15 notamment, qui avait fait venir un coach sud-africain pour le jeu au pied. On aime bien parfois un peu avoir un œil extérieur, peut-être ça revigore, ça ramène peut-être peut-être l'oxygène en plus.
Parce que souvent, quand ils font venir quelqu'un d'extérieur, c'est une légende. Tu sais, l'année dernière, alors il y a un an, je ne me rends pas compte, le dernier grand star que le SA15 ont fait venir, c'est Fitzpatrick. Ah oui. Fitzpatrick, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancien talonneur, capitaine emblématique de All Black. Qui était un gars extraordinaire, qui a eu je ne sais pas combien de... qui faisait partie de la première équipe des Blacks champion du monde en 87. C'était un personnage. Je sais qu'ils l'ont fait venir il y a un an et demi. Je ne me rends plus compte pendant des attaques, tout ça. C'est des personnages. Déjà, de les voir, ça transcende un peu le groupe, ça te... C'est comme ça, t'as envie de les voir, t'as envie d'être avec eux, t'as envie de montrer, t'as envie. Mais c'est pareil dans tous les sports. Je pense que si demain tu fais venir à la CFC.
Ouais, Zidane ou Deschamps, bien sûr. Ouais.
Toi, Platini, Zizou, pareil, mais putain, c'est. Tu vois ce que je veux dire.
Ah bah, t'as des étoiles dans les yeux quand tu les vois.
Et forcément. Tu sais, moi, je suis pas un footballeur. J'ai vu Deschamps il y a quelques. Il y a deux ans, je me rappelle pas, quoi. Sur un petit truc là avec la presse, j'étais enthousiaste, j'étais content.
Des légendes, parfois le mot est un peu fort, mais en tout cas des référents.
Des références, oui. Et voilà. Puis tu te rends compte que c'est aussi des gens simples.
Tout à fait.
Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je pense réellement ce que je te dis, c'est que plus tu joues à un niveau, plus tu es quelqu'un de simple. Il n'y a pas beaucoup. Alors, je parle au rugby, je parle pas forcément tous les sports que je connais pas, mais je trouve que les mecs de haut niveau, c'est des gens simples. Il n'y a pas des mecs qui se la racontent, qui vont être prêts. Tu vois, on parlait de Fabien tout à l'heure. Fabien, c'est un gars qui est très simple, il n'est pas prétentieux. Tu vois, voilà, ce que j'aime, c'est la simplicité des gens, qu'ils soient des stars ou des légendes par rapport à toi, et voilà, c'est très bien.
Galthié, d'ailleurs, toi, dis-toi, à titre personnel, est-ce que tu as eu l'occasion déjà de le rencontrer?
Je l'ai rencontré plusieurs fois, puisqu'il a entraîné longtemps avec Fabrice.
Oui.
Donc, forcément, on s'est vu plusieurs fois.
C'est un type avec qui tu as pu échanger ou qui a un regard extérieur ou qui est pas unique?
Alors, c'est ce que je te disais, ça. C'est quelqu'un qui tu discutes ou tu échanges. Et il n'est pas Fabien, je suis l'entraîneur de l'équipe de France et j'ai la seule vérité du rugby. Il échange. avec toi, Jérôme, petit entraîneur de petit club au fin fond de la Charente, et se met égal à égal, tu vois. Alors après, attention, moi, si tu veux, je ne l'ai pas lu en tant que coach. Et c'est là où, tu vois, il y a une différence. Parce qu'en tant que coach, il doit être exigeant, chiant, dur. Il peut avoir toutes ces... Mais c'est comme dans la vie, quand tu as un patron au travail, il est peut-être dur avec ses employés, et ça peut être le meilleur copain du monde.
C'est vrai,
Fabien,
ça.
Peut-être que c'est pareil. C'est son métier, il est entraîneur. Alors, il est sûrement dur. J'en parle parce que quand je vois son expérience à Montpellier, qui s'est pas très bien passé, où les joueurs étaient un peu critiques, mais il n'empêche qu'il a fait de Montpellier ce qu'ils étaient avant il y a 10 ans et ce qu'il est aujourd'hui, toi. Il a quand même transformé le club. Mais après, forcément, c'est un patron, il est exigeant, il est dur, il est tout ça, et voilà. Mais après, quand tu le mets dans une autre peau, pas celle d'un entraîneur, quand tu le mets dans la peau d'un ami, il est bien, c'est un bon truc.
Moi, personnellement, je suis fan de l'équipe de Suisse et on a changé d'entraîneur avec l'arrivée de Petkovic à Bordeaux. Et dans les journaux suisses, il y avait un débat comme quoi sélectionneur et entraîneur, finalement, ça n'était pas le même travail. Parce qu'au final, quand on est entraîneur, on a le groupe au quotidien, alors qu'en sélection, mais on les a... En tout cas, en foot, c'est rassemblement dure parfois moins de deux semaines.
Sélectionneur, tu donnes que les bonnes nouvelles au mec que tu as choisi. Donc, c'est très facile. Je schématise, hein. Mais entraîneur, c'est toi qui fais les mauvais choix. Parce que, alors d'abord, je le dis toujours, c'est quoi un bon entraîneur? C'est celui qui te fait jouer. Donc, déjà, l'entraîneur, il va sanctionner la moitié d'équipe qui ne fait pas jouer. Donc, tu vois la différence. Sélectionneur, il fait les bons choix puisqu'il t'a choisi. L'entraîneur, il ne fait pas les bons choix parce qu'à un moment, il ne va pas trop tenir, ou il ne va pas aller dans ton sens, ou il va t'engueuler. Toi, la différence, elle est là aussi.
Oui, puis j'imagine aussi qu'au niveau du travail, on travaille différemment parce qu'on a les joueurs beaucoup moins longtemps, finalement.
Ouais. C'est différent. Tu les as différemment, les joueurs. Ouais.
Jérôme, on va élargir un petit peu le débat, si tu le veux bien. On a eu donc des Jeux Olympiques il n'y a pas si longtemps, et quelle impression t'en laissait les sportco qui ont eu des résultats absolument stratosphériques?
Bah, c'était super, parce que surtout que c'est en fin de Jeux Olympiques, je crois que c'est le dernier week-end, le dernier dimanche, t'as 5 équipes de France sur 6 possibles. Alors, je parle des sports majeurs, hein.
Bah, le foot.
Je parle pas du foot. Je parle du hand, du volley, du basket.
Oui.
Et du rugby. C'est super, autant chez les hommes que chez les femmes.
Et du rugby chez les filles aussi, hein.
Pas oui, le rugby chez les filles, ouais, c'est vrai. Mais ça a été super. Moi, j'étais vraiment, alors, bien sûr, je suis content pour le hand, mais on s'y habitue. Moi, j'étais très content, c'est pour le volley. J'ai vu le match du volley.
C'est clair.
Ça m'a vraiment plu. Le basket, quand ils ont battu les Américains pour le match, c'est trop super. Tu y crois pas. Tu aurais dit ça il y a quelques temps, on va battre les Américains, tu y croyais pas.
Ouais,
voilà,
c'est vrai.
Ils ont quand même battu les Américains.
Deux fois si plus, parce qu'ils les avaient aussi battus lors des mondiaux.
Oui, mais même s'ils perdent contre eux en finale, et ils sont pas si loin que ça finalement.
Il y a 6 points, je crois, c'est ça.
Et c'est quand même un exploit. Il y a 15 ans de ça, on aurait pris 50 points contre eux.
C'est vrai.
Comme en 2000, ou avec notamment la fameuse image de Vince Carter qui dunk sur Fred Weiss, et oui, au final, ça fait du 100 à 70 à l'arrivée. Hein.
Voilà, c'est ça. Mm. Bon, voilà, donc c'était super. Moi, j'ai aimé. J'ai tout aimé. C'est pas parce qu'on a gagné, tu vois. Parce que vraiment, tu vois, par exemple, je parlais du volley. Les volets, à un moment, je croyais pas qu'ils allaient gagner. Putain, ils sont arrivés à se remettre, à remonter, à passer devant, tu vois. Voilà, c'est ça. C'était super.
Ouais, surtout qu'en plus le volley, les JO commencent mal, ils perdent le premier match,
et
le deuxième match, ils sont pas trop loin de le perdre aussi. Au final, c'est aussi là qu'on voit la force d'un groupe, c'est de se relever. Une compétition, c'est long, et ils ont réussi à vraiment se remettre en question et à se relever en quelques jours seulement.
D'autant qu'ils ont battu que des pointures, hein, c'est clair. Enfin,
de toute façon, à la fin, t'as que des pointures. Hein.
C'est clair. Le match contre Saint-Stovini, je me souviens, il y a un contre je sais plus qui c'est qui fait le contre, mais bon, ce qui permet à la France de battre la Slovénie, donc sur un contre à 3 secondes de la fin. Et ça, c'est extraordinaire ce que peut nous apporter le basket quand c'est joué comme ça. D'ailleurs,
tu sais, moi, à un moment, j'étais agacé parce que je dis, ils vont pas gagner. Et j'étais dans mon fauteuil, ça m'agaçait, Et puis, tu vois, c'est ça qui est chouette. Parce qu'à un moment, ils arrivent à repasser devant et à rester, c'est
bien. Enfin, donc, ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les sports collectifs en France, ça marche pas si mal que ça.
Ça marche bien, là, on a vu que ça marchait bien. Après, même si la dernière Coupe d'Europe de foot, les Français n'ont pas brillé, même si aux Jeux n'ont pas brillé, ils sont quand même champions du monde. C'est quand même les derniers champions du monde. Tu vois, oui. Et en plus, je suis bien content que pour une fois, ce soit les Ritales qui soient champions d'Europe.
Ah, moi aussi, j'étais ravi. Hein. Pour le coup, c'est pas que j'aime pas les Anglais, mais j'adore les Ritales, je suis comme toi. Donc,
On était en plein été, j'ai mis mon maillot d'Italie pendant 3 semaines.
Super.
Ma chérie n'a pas pu le laver.
Et puis on parlait des JO à Tokyo, mais dans 3 ans maintenant c'est à Paris.
Ben ouais, tout est à Paris.
C'est un rendez-vous que c'est un rendez-vous que j'attends, ça dit Tom, particulièrement les JO à Paris.
Alors pour l'instant, aujourd'hui, je sais pas, mais aujourd'hui je fais pas de différence entre le fait qu'ils soient à Paris ou ailleurs.
D'accord.
Je suis pas encore dans, tu vois, ça m'inspire pas plus qu'ils soient à Paris qu'ailleurs. Je suis impatient d'être à 3 ans, mais qu'ils soient à Paris ou ailleurs. Pour moi, c'est pareil. Alors, je pense que pour un athlète, c'est complètement différent.
Ouais, je pense que.
Ah, ben, concoureur à domicile, oui, complètement. Moi, ouais. Je ne suis pas dans Sornay Lacoste.
La Coupe du Monde de rugby en France, pour moi, ça a de l'importance.
Ouais.
Après, je me dis que pour les JO, tu as tellement de nombre de sports, d'athlètes, tout ça, que. Est-ce que ça aura vraiment une. Voilà. Je suis trop loin pour penser à tout ça, toi.
Et pourtant, c'est quasiment demain, quoi. Enfin...
C'est dans 3 ans. Dans 3 ans.
Un mot sur l'équipe de France de foot. Je sais pas si tu as regardé le match contre la Finlande. Donc, est-ce que
ils ont fini par gagner. Mais après, ils n'avaient pas perdu avant. Voilà. Bon.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Une sortie de Coupe du Monde, comme je le dis, ils sont quand même champions du monde. La sortie doit être compliquée à gérer. Ils n'ont pas fait un euro extraordinaire. Voilà. Il y a des tas de choses qui font que. Voilà, ils sont quand même champions du monde, et ils ont donné du plaisir à toute la France, et je trouve que ça serait très malvenu de les critiquer.
C'est vrai. Est-ce que tu as regardé avec un œil intéressé les Jeux paralympiques?
Ouais. Alors, j'ai regardé, j'y attache une importance, parce que j'ai eu un cousin qui a fait les Jeux olympiques en e-sport de natation.
Ah bon?
Je parle de ça il y a peut-être 40 ans, et qui a eu 5 médailles aux Jeux olympiques en natation.
Extraordinaire.
Donc, pour moi, c'est une importance. Pas forcément la natation, un peu tout. Toi, notamment, je suis tombé sur les pongistes qui jouent avec la bouche. Je trouve ça extraordinaire.
Ouais.
Je trouve ça extraordinaire le courage qu'ils ont et nous, on pleure pour un doigt cassé, tu vois. Donc, voilà, je suis admiratif. De toute façon, on peut être qu'admiratif. Le gars qui n'est pas admiratif, c'est qu'il n'a pas compris le sport, quoi.
Et puis 54 médailles quand même, c'est pareil.
Ouais, mais la médaille, c'est pas le plus important, c'est la volonté d'y aller. Quoi, tu vois.
C'est vrai, c'est vrai.
Et la volonté d'y aller. Mais tout à l'heure, je le disais, tu sais, déjà, quand je parlais de l'USA, je disais déjà le seul fait de vouloir entrer sur le terrain, tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Mais là, c'est encore plus fort, quoi. Tu veux dire, le mec, c'est. Alors, c'est pas que jouer au ping-pong avec la bouche, c'est tout, c'est l'état d'esprit, c'est le mental de ces gars, le courage.
Ouais.
Surtout
le courage, parce que généralement, c'est des êtres vivants qui ont traversé des moments compliqués dans leur vie, des amputations ou autre chose, et il faut avoir une force morale pour se reconstruire.
Hein. Ouais, faut être.
Et pour se dire, bon, je pense notamment à Javier Ochoa, qui s'était fait renverser avec son frère. C'était une histoire vraiment triste. C'était deux coureurs cyclistes de la Calmée qui se sont fait renverser, deux jumeaux. Il y en a un qui est mort, l'autre du coup ne pouvait plus faire de vélo, et il a fait du vélo en paralympique. Il a été champion olympique à Athènes 3 ans plus tard. La force mentale qu'il faut quand même pour se reconstruire, pour se dire bon, ma carrière de cycliste, j'ai quand même gagné une étape de Tour de France de montagne, ma carrière elle est finie, maintenant je vais me reconvertir comme para, et il faut quand même une sacrée force mentale, hein.
Oui, mais moi de toute façon j'allais dire j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais j'en ai beaucoup pour tellement de gens, donc tu vois, ça change pas.
C'est vraiment des écoles de vie, ça. C'est je sais bien que c'est une devise qui est reprise par le rugby, mais bon, quand on regarde un petit peu tous ces gens qui sont atteints de handicaps divers, se hisser quasiment au niveau des valides, parce qu'il faut pas oublier que notre sauteur en longueur, il saute 7,36 m, et que avec une jambe en moins, enfin avec une prothèse, et que 7,36 m, c'est déjà une performance qu'il n'y a pas beaucoup de valides qui sont capables de faire.
Ah, c'est sûr.
Voilà, Jérôme. Est-ce qu'on a balayé tout ce qu'on avait à balayer pour pouvoir faire un point précis de ce que tu voulais nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose, un point sur lequel tu voudrais revenir, Jérôme, et nous parler?
Non, mais là, comme ça, je pense pas à tout. Tu sais, on dit tellement de choses. Oh, et c'est bien parce qu'on dit pas trop de conneries, donc déjà, ça, c'est bien. mais non, mais comme ça, tout va bien. Donc, voilà, je souhaite beaucoup de courage à toutes ces équipes sportives d'Angoulême. On n'a pas parlé du foot d'Angoulême, par exemple, tu vois.
Ah, Christian, un mot sur la CFC.
Ouais, ils ont bien des... Moi, je voulais en parler parce que je vois nos trois petits jeunes et qu'ils sont très plaisants, tu vois, et qu'ils apportent une belle image. Ils ont bien commencé, je voulais juste dire que c'était bien. Parce qu'il faut les soutenir aussi.
Christian, qu'est-ce qu'il y a comme ambition à la CFC cette année? Tu sais ou pas?
Bon, bah, l'ambition, c'est de se maintenir le plus rapidement possible. Hein. L'équipe est en reconstruction.
C'est bien parti.
Oui, 10 points après les 5 matchs, c'est pas mal. Sachant que pour se maintenir en N2, il faut environ 35 points. Donc, sur 35 points sur 30 matchs, ça fait du coup un point débrouillé par match. Ouais. Alors que là, ils sont pour l'instant sur une base de 2 points par match. Non, c'est très bien, ouais. Moi, j'aimerais souligner deux trois choses. Bon, après, c'est vrai que la CFC, je connais quand même pas mal le sujet, mais ils ont pas encaissé de but lors de quatre matchs sur 5. C'est quand même une performance notable. Et puis voilà, il y a toujours l'adage qui dit que quand tu n'encaisses pas de but, au moins tu es sûr de ne pas perdre. Et voilà. Et puis après, il faut saluer le travail du nouveau coach David Gigel qui arrive de Rouen. Il faut aussi saluer l'énorme boulot d'Hervé Louba qui a entraîné l'équipe pendant 5 saisons.
Hervé, il a fait quoi? Il a arrêté ou il est parti?
Pour l'instant, ouais, il a pas d'équipe. J'ai l'impression qu'il va prendre peut-être une année sabbatique.
D'accord.
Parce que finalement, tu le sais aussi bien que nous, Litam, quand t'es coach, t'es au front du mois de juin pour faire le recrutement jusqu'au mois de mai pour finir la saison.
Ouais, j'allais dire moi du mois de juin jusqu'au mois de juin.
Ouais, pratiquement, ouais. Et puis surtout, quand t'es joueur que tu perds, bon, tu peux te dire, bon, on a perdu, voilà. Et quand t'es coach, t'y repenses. Moi, je me rappelle de Yohan Dumé, l'entraîneur de la réserve d'Angoulême, qui était à l'époque l'entraîneur de la première. Mm-hmm. Il me disait, moi, quand je perds, je dors pas, je cherche des solutions, pour pas que ça se reproduise. Et c'est vrai que quand on est coach, au final, bien sûr, il y a les séances d'entraînement, bien sûr, il y a les matchs, mais on pense à tellement de choses en dehors du terrain que c'est hyper prenant.
Si je peux me permettre, moi, pour terminer, enfin, Jérôme, tu auras la parole pour terminer, bien sûr. Moi, j'ai une pensée spéciale pour le SU Agen, parce que c'est quand même une drôle d'histoire. Enfin, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire parce que c'est hors de l'ordinaire et qui sont en train d'attendre leur première victoire après 28 matchs sans rien, sans... perdu sans rien et que ils se font battre pour le premier match en Pro D2. Donc moi je leur souhaite vraiment le meilleur.
Je pense qu'ils vont s'en sortir et je pense même qu'ils peuvent se qualifier.
Eh ben écoute, on le souhaite, hein, en tout cas. On le souhaite.
Même s'ils ont mal démarré.
Jérôme, un mot pour conclure, qu'est-ce que tu voulais dire?
Eh ben que tout le monde va bien, faites beaucoup d'exercices, pas comme moi.
Je suis pas certain d'en faire beaucoup plus que toi, Jérôme. Je suis pas certain. J'ai un doute. Voilà. Mais en revanche, on te remercie, Jérôme. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous pour parler pendant une heure de choses diverses et variées parce qu'on n'est pas focus uniquement sur le sport. On parle de tout. On parle de théâtre. On parle de boulot. Donc, on parle de plein de choses. Et finalement, c'est toujours des sessions qui sont enrichissantes. Donc, merci d'avoir été le parrain de cette année 2021-2022. Donc, on te dit à très bientôt parce que on se reverra dans le courant de l'année prochaine de manière à ce qu'on puisse encore une fois passer un bon moment ensemble. Merci, Jérôme.
Bon, merci à tout le monde. Bonne soirée.
Allez, prenez bien soin de vous. À tout bientôt et à très bientôt sur les ondes.